Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 8. Troisième comparution, trésor des indulgences, la foi, humble requête, réponse du légat, réplique de Luther, colère du légat, Luther sort, première défection. Le vendredi 14 octobre, Luther retourna chez le cardinal, accompagné des conseillers de l'électeur. Les Italiens se pressaient comme à l'ordinaire autour de lui et assistaient en grand nombre à la conférence. Luther s'avança et présenta au légat sa protestation. Les gens du cardinal regardaient avec étonnement cet écrit si audacieux à leurs yeux. Voici ce que le docteur de Wittenberg y déclarait à leur maître. « Vous m'attaquez sur deux points. D'abord, vous m'opposez la constitution du pape Clément VI, dans laquelle il doit être dit que le trésor des indulgences est le mérite du Seigneur Jésus-Christ et des saints, ce que je nie dans mes thèses. » Panormitanus, Luther désigné par ce nom Yves, auteur du fameux recueil de droit ecclésiastique Panormia et évêque de Chartres à la fin du XIe siècle. Panormitanus déclare dans son premier livre qu'en ce qui regarde la Sainte Foi, non seulement un conseil général, mais encore chaque fidèle est au-dessus du pape, s'il peut citer des déclarations de l'Écriture et des raisons meilleures que celles du pape. La voix de notre Seigneur Jésus-Christ s'élève beaucoup au-dessus de toutes les voix des hommes, quels que soient les noms qu'ils portent. Ce qui me cause le plus de peine et me donne le plus à penser, c'est que cette constitution renferme des doctrines tout à fait opposées à la vérité. Elle déclare que le mérite des saints est un trésor, tandis que toute l'Écriture témoigne que Dieu récompense bien plus richement que nous ne l'avons mérité. Le prophète s'écrie « Seigneur, n'entre point en jugement avec ton serviteur, car nul homme vivant ne sera trouvé juste devant toi. » Psaume 143, verset 2. « Malheur aux hommes, quelque honorable et quelque louable que leur vie puisse être, dit saint Augustin, s'il devait être prononcé sur elle un jugement dont la miséricorde fut exclue. Ainsi, les saints ne sont pas sauvés par leur mérite, mais uniquement par la miséricorde de Dieu, comme je l'ai déclaré. Je maintiens ceci et j'y demeure ferme. Les paroles de l'Écriture sainte qui déclarent que les saints n'ont pas assez de mérite doivent être mises au-dessus des paroles des hommes qui affirment qu'ils en ont trop, car le pape n'est pas au-dessus mais au-dessous de la parole de Dieu. » Luther ne s'en tint pas là. Il montre que si les indulgences ne peuvent être le mérite des saints, elles ne sont pas davantage le mérite de Christ. Il fait voir que les indulgences sont stériles et sans fruit, puisqu'elles n'ont d'autre effet que d'exempter les hommes de faire des bonnes œuvres, telles que la prière et l'aumône. « Non, s'écrie-t-il, le mérite de Christ n'est pas un trésor d'indulgence qui exempte du bien, mais un trésor de grâce qui vivifie. Le mérite de Christ est appliqué aux fidèles sans indulgence, sans clé, par le Saint-Esprit seul et non par le pape. Si quelqu'un a une opinion mieux fondée que la mienne, ajoute-t-il en terminant ce qui regarde ce premier point, qu'il la fasse connaître, et alors je me rétracterai. J'ai affirmé, dit-il en venant au second article, qu'aucun homme ne peut être justifié devant Dieu si ce n'est par la foi, en sorte qu'il est nécessaire que l'homme croie avec une entière assurance qu'il a obtenu la grâce. Douter de cette grâce, c'est la rejeter. La foi du juste est sa justice et sa vie. Luther prouve sa proposition par une multitude de déclarations de l'Écriture. « Veuillez donc intercéder pour moi auprès de notre très saint Seigneur le pape Léon X, ajoute-t-il, afin qu'il ne me traite pas avec tant de défaveur. Mon âme cherche la lumière de la vérité. Je ne suis pas tellement orgueilleux, tellement désireux d'une vaine gloire, que j'ai honte de me rétracter si j'ai enseigné des choses fausses. Ma plus grande joie sera de voir triompher ce qui est selon Dieu. Seulement, qu'on ne me force pas à faire quoi que ce soit contre le cri de ma conscience. » Le légat avait pris la déclaration des mains de Luther. Après l'avoir parcouru, il lui dit froidement « Tu as fait là un verbiage inutile, tu as écrit beaucoup de paroles vaines, tu as répondu follement aux deux articles et tu as noirci ton papier d'un grand nombre de passages de la Sainte Écriture qui ne se rapportent point au sujet. » Puis d'un air dédaigneux, De Viau jeta la protestation de Luther comme n'en faisant aucun cas et recommençant sur le ton qui lui avait si bien réussi dans la dernière entrevue, il se mit à crier de toutes ses forces que Luther devait se rétracter. Celui-ci fut inébranlable. Frère, frère, s'écria alors De Vio en italien, la dernière fois tu as été très bon, mais aujourd'hui tu es tout à fait méchant. Puis le cardinal commence un long discours tiré des écrits de saint Thomas. Il élève de nouveau de toutes ses forces la constitution de Clément VI. Il persiste à soutenir qu'en vertu de cette constitution, ce sont les mérites mêmes de Jésus-Christ qui sont distribués aux fidèles par le moyen des indulgences. Il croit avoir réduit Luther au silence. Celui-ci prend quelquefois la parole, mais De Vio gronde, tonne sans cesse et prétend, comme l'avant-veille, s'agiter seul sur le champ de bataille. Cette manière avait pu avoir quelque succès une première fois, mais Luther n'était pas homme à la souffrir une seconde. Son indignation éclate à la fin. C'est à son tour de frapper d'étonnement les spectateurs qui le croient déjà vaincu par la volubilité du prélat. Il élève sa voix retentissante. Il saisit l'objection favorite du cardinal et lui fait payer cher la témérité qu'il a eue d'entrer en lutte avec lui. « Rétracte, rétracte !» lui répétait De Vio en lui montrant la constitution du pape. « Eh bien, dit Luther, s'il peut être prouvé par cette constitution que le trésor des indulgences est le mérite même de Jésus-Christ, je consens à rétracter selon la volonté et le bon plaisir de votre éminence. » Les Italiens, qui n'entendaient rien de pareil, ouvrent de grands yeux à ces paroles et ne peuvent se contenir de joie de voir l'adversaire pris enfin dans le filet. Pour le cardinal, il est comme hors de lui. Il rit tout haut, mais d'un rire auquel se mêlent l'indignation et la colère. Il s'élance. Il saisit le livre dans lequel est contenue la fameuse constitution. Il la cherche, il la trouve, et tout fier de la victoire dont il se croit sûr, il lit à haute voix, avec fougue et tout haletant. Les Italiens triomphent, les conseillers de l'électeur sont inquiets et embarrassés. Luther attend son adversaire. Enfin, quand le cardinal en vient à ses paroles, « Le Seigneur Jésus-Christ a acquis ce trésor par sa souffrance. » Luther l'arrête. « Très digne père, lui dit-il, veuillez bien considérer et méditer avec soin cette parole. Il a acquis. Christ a acquis un trésor par ses mérites. Les mérites ne sont donc pas le trésor. » Car pour parler avec les philosophes, la cause est autre chose que ce qui en découle. Les mérites de Christ ont acquis au pape le pouvoir de donner de telles indulgences au peuple, mais ce ne sont pas les mérites mêmes du Seigneur que la main du pontife distribue. Ainsi donc, ma conclusion est véritable, et cette constitution que vous invoquez avec tant de bruit rend témoignage avec moi à la vérité que je proclame. De Vio tient encore le livre en ses mains. Ses regards sont encore arrêtés sur le fatal passage. Il n'y a rien à répondre. Le voilà pris lui-même dans le piège qu'il a tendu. Et Luther l'y retient d'une main puissante, à l'inexprimable étonnement des courtisans italiens qui l'entourent. Le légat voudrait éluder la difficulté, mais il n'y a pas moyen. Il avait abandonné depuis longtemps et les témoignages de l'Écriture et les témoignages des pères. Il s'était réfugié dans cette extravagante de Clément VI et l'y voilà pris. Cependant, il est trop fin pour laisser paraître son embarras. Voulant cacher sa honte, le prince de l'Église change brusquement de sujet et se jette avec violence sur d'autres articles. Luther, qui s'aperçoit de cette manœuvre habile, ne lui permet pas de s'échapper. Il serre et ferme de tous côtés le réseau qu'il a jeté sur le cardinal et rend l'évasion impossible. « Très révérend père, dit-il avec une ironie revêtue de toutes les apparences du respect. « Votre éminence ne peut pourtant pas penser que nous autres Allemands, nous ne sachions pas la grammaire. Être un trésor et acquérir un trésor sont deux choses très différentes. »« Rétracte, lui dit De Vio, rétracte, ou si tu ne le fais, je t'envoie à Rome pour y comparaître devant les juges qui ont été chargés de prendre connaissance de ta cause. Je t'excommunie, toi et tous tes partisans, tous ceux qui te sont ou te deviendront favorables, et je les rejette de l'Église. » Tout pouvoir m'a été donné à cet égard par le Saint-Siège apostolique. Penses-tu que tes protecteurs m'arrêtent? T'imagines-tu que le pape se soucie de l'Allemagne? Le petit doigt du pape est plus fort que tous les princes allemands ne le sont. Daignez, répond Luther, envoyez au pape Léon X avec mes très humbles prières la réponse que je vous ai remise par écrit. Le légat, à ces paroles, tout content de trouver un moment de relâche, s'enveloppe de nouveau dans le sentiment de sa dignité et dit à Luther avec fierté et colère « Rétracte-toi ou ne reviens pas !» Cette parole frappe Luther. Cette fois-ci, il va répondre autrement que par des discours. Il s'incline et il sort. Les conseillers de l'électeur le suivent. Le cardinal et les Italiens, demeurés seuls, se regardent, tout confus d'une telle issue du débat. Ainsi, le système dominicain, recouvert de l'éclat de la pourpre romaine, avait orgueilleusement éconduit son humble adversaire. Mais Luther sentait qu'il est une puissance, la doctrine chrétienne, la vérité qu'aucune autorité séculière ou spirituelle ne saurait jamais subjuguer. Des deux combattants, celui qui se retira demeura maître du champ de bataille. C'est ici le premier pas par lequel l'Église se détacha de la papauté. Luther et De Vio ne se revirent plus, mais le réformateur avait fait sur le légat une impression puissante qui ne s'effaça jamais entièrement. Ce que Luther avait dit sur la foi, ce que De Vio lut dans les écrits postérieurs du docteur de Wittenberg, modifia beaucoup les sentiments du cardinal. Les théologiens de Rome virent avec surprise et mécontentement ce qu'il avança sur la justification dans son commentaire sur l'Épître aux Romains. La réformation ne recula pas et ne se rétracta pas, mais son juge, celui qui n'avait cessé de s'écrier « Rétracte !», changea de vue et rétracta indirectement ses erreurs. Ainsi fut couronnée l'inébranlable fidélité du réformateur. Luther retourna dans le monastère où il avait trouvé l'hospitalité. Il était demeuré ferme, il avait rendu témoignage à la vérité, il avait fait ce qui lui appartenait de faire, Dieu fera le reste, son cœur était rempli de paix et de joie. Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 9. De Vio et Staupitz, Staupitz et Luther, Luther à Spalatin, Luther à Karlstadt, la Communion, Linck et De Vio, départ de Staupitz et de Linck, Luther à Cajetan, silence du cardinal, adieu de Luther, départ, appel au pape. Cependant, les nouvelles qu'on lui annonçait n'étaient pas rassurantes. Le bruit courait dans toute la ville que s'il ne voulait pas se rétracter, on devait le saisir et le plonger dans un cachot. Le vicaire général de l'ordre, Staupitz lui-même, assurait-on, devait y avoir consenti. Luther ne peut croire ce qu'on dit de son ami. Non, Staupitz ne le trahira pas. Quant au dessein du cardinal, en juger d'après ses propres paroles, il est difficile d'en douter. Cependant, il ne veut pas fuir devant le péril. Sa vie, comme la vérité elle-même, est en des mains puissantes, et malgré le danger qui le menace, il se décide à ne pas quitter Augsbourg. Le légat se repentit bientôt de sa violence. Il sentit qu'il était sorti de son rôle, et il voulut tâcher d'y rentrer. À peine Staupitz avait-il terminé son dîner, c'était le matin que l'entrevue avait eu lieu, et l'on dînait à midi, qu'il reçut un message du cardinal, l'invitant à se rendre chez lui. Staupitz y alla, accompagné de Wenceslas Link. Le vicaire général trouva le légat seul avec Serra Longa. De Vio s'approcha aussitôt de Staupitz et lui adressa les plus douces paroles. « Tâchez donc, lui dit-il, de persuader votre moine et de l'engager à faire une rétractation. Vraiment, et je suis d'ailleurs content de lui, et il n'a pas de meilleur ami que moi. » Staupitz, je l'ai déjà fait et je lui conseillerai encore maintenant de se soumettre en toute humilité à l'Église. De Vio, il vous faut répondre aux arguments qu'il tire de la Sainte Écriture. Staupitz, je dois vous avouer, Monseigneur, que cela est au-dessus de mes forces, car le docteur Martin m'est supérieur et en esprit et en connaissance des Saintes Écritures. Le cardinal sourit sans doute à cette franchise du vicaire général. Il savait du reste lui-même à quoi s'en tenir sur la difficulté de convaincre Luther. Il continua et dit à Staupitz et à Linck, « Savez-vous bien que, comme partisan d'une doctrine hérétique, vous êtes vous-même exposé aux peines de l'Église ?» Staupitz, daignez reprendre la conférence avec Luther, instituer une dispute publique sur les points controversés. De Vio, frappé d'effroi à cette seule pensée. « Je ne veux plus discuter avec cette bête, car elle a dans la tête des yeux profonds et d'étonnantes spéculations. » Staupitz obtint enfin du cardinal qu'il remettrait par écrit à Luther ce qu'il devait rétracter. Le vicaire général retourna vers Luther. Ébranlé par les représentations du cardinal, il essaya de l'amener à quelque accommodement. « Réfutez donc, lui dit Luther, les déclarations de l'Écriture que j'ai avancées. »« C'est au-dessus de mon pouvoir, dit Staupitz, Eh bien, reprit Luther, il est contre ma conscience de me rétracter, aussi longtemps qu'on n'aura pas pu m'expliquer ces passages de l'Écriture. Quoi, continua-t-il, le cardinal prétend à ce que vous m'assurez qu'il veut arranger ainsi l'affaire, sans qu'il y ait pour moi ni honte, ni désavantage. Ah, ce sont là des paroles romaines qui signifient en bon allemand que ce serait mon opprobre et ma ruine éternelle. Qu'a-t-il d'autre à attendre, celui qui par crainte des hommes et contre la voix de sa conscience renie la vérité ? Staupitz n'insista pas. Il annonça seulement à Luther que le cardinal avait consenti à lui remettre par écrit les points dont il demandait la rétractation. Puis, sans doute, il lui apprit la résolution où il était de quitter Augsbourg, où il n'avait plus rien à faire. Luther lui communiqua un dessein qu'il avait formé pour consoler et fortifier leurs âmes. Staupitz promit de revenir et ils se séparèrent pour quelques instants. Demeuré seul dans sa cellule, Luther tourna ses pensées vers des amis chers à son cœur. Il se transporta à Weimar, à Wittenberg. Il désira informer les lecteurs de ce qui se passait et, craignant d'être indiscret, en s'adressant au prince lui-même, il écrivit à Spalatin et pria le chapelain de faire connaître l'état des choses à son maître. Il lui raconta toute l'affaire, jusqu'à la promesse faite par le légat de donner par écrit les points controversés, et il termina en disant « C'est là qu'en est la chose, mais je n'ai ni espérance, ni confiance dans le légat. Je ne veux pas rétracter une seule syllabe. Je publierai la réponse que je lui ai remise, afin que s'il en vient à la violence, il soit couvert de honte dans toute la chrétienté. » Puis le docteur profita de quelques moments qui lui restaient encore pour donner de ses nouvelles à ses amis de Wittenberg. « Paix et félicité, écrivit-il au docteur Karlstadt, acceptez ce peu de mots comme si c'était une longue lettre, car le temps et les événements me pressent. Une autre fois, je vous écrirai à vous et à d'autres plus longuement. Voilà 3 jours que mon affaire se traite et les choses en sont au point que je n'ai plus aucun espoir de retourner vers vous et que je n'ai plus que l'excommunication à attendre. Le légat ne veut absolument pas que je dispute publiquement ni en particulier. » Il ne veut pas être pour moi un juge, dit-il, mais un père. Et pourtant, il ne veut entendre de moi que ces paroles. Je me rétracte et je reconnais que je me suis trompé. Et moi, je ne veux pas les dire. Les périls de ma cause sont d'autant plus grands qu'elle a pour juge non seulement des ennemis implacables, mais encore des hommes incapables de la comprendre. Cependant, le Seigneur Dieu vit et règne. C'est à sa garde que je me recommande, et je ne doute pas que, répondant aux prières de quelques âmes pieuses, il ne m'envoie du secours, je crois sentir que l'on prie pour moi. Ou bien je retournerai vers vous sans qu'on m'ait fait du mal, ou bien, frappé d'excommunication, je devrai chercher ailleurs un refuge. Quoi qu'il en soit, comportez-vous vaillamment, tenez ferme et exaltez Christ intrépidement et avec joie. Le cardinal me nomme toujours son cher fils. Je sais ce qu'il faut en croire. Je suis néanmoins persuadé que je serai pour lui l'homme le plus agréable et le plus cher si je voulais prononcer cette seule parole « revoco », c'est-à-dire « je me rétracte », mais je ne deviendrai pas hérétique en rétractant la foi qui m'a fait devenir chrétien, plutôt être chassé, maudit, brûlé, mis à mort. Portez-vous bien, mon cher docteur, et montrez cette lettre à nos théologiens, à Amsdorf, à Philippe, à Houten et aux autres, afin que vous priiez pour moi et aussi pour vous, car c'est aussi votre affaire qui se traite ici, c'est celle de la foi au Seigneur Jésus-Christ et de la grâce de Dieu. » Douce pensée qui remplit toujours de consolation et de paix ceux qui ont rendu témoignage à Jésus-Christ et à sa divinité et à sa grâce, quand le monde fait pleuvoir sur eux de toutes parts ses jugements, ses exclusions et sa défaveur. Notre affaire est celle de la foi au Seigneur, et que de douceur aussi dans cette conviction qu'exprime le réformateur, je sens que l'on prie pour moi. La réformation fut l'œuvre de la prière et de la piété. La lutte de Luther et de Devio fut celle de l'élément religieux qui reparaissait plein de vie avec les débris expirants de la dialectique raisonneuse du Moyen-Âge. Ainsi s'entretenait Luther avec ses amis absents. Bientôt Staupitz revint. Le docteur Ruel et le chevalier de Freilich, l'un et l'autre envoyés de l'électeur, arrivèrent aussi chez Luther après avoir pris congé du cardinal. Quelques autres amis de l'Évangile se joignirent à eux. Luther, voyant ainsi réunis ces hommes généreux, sur le point de se disperser et desquels il allait peut-être se séparer lui-même pour toujours, leur proposa de célébrer tous ensemble la scène du Seigneur. Ils acceptent, et ce petit troupeau d'hommes fidèles communie au corps et au sang de Jésus-Christ. Quels sentiments remplissent le cœur de ses amis du réformateur dans le moment où, célébrant avec lui l'Eucharistie, il pense que c'est peut-être la dernière fois qu'il lui sera permis de le faire. Quelle joie et quel amour animent le cœur de Luther en se voyant si gracieusement reçu par son maître dans le moment où les hommes le repoussent. Que cette scène dut être solennelle, que cette soirée dut être sainte. Le lendemain, Luther attendait les articles que le légat devait lui envoyer. Mais ne recevant de lui aucun message, il pria son ami le docteur Wenceslas Link de se rendre chez le cardinal. Deviau reçut Link de la manière la plus affable et l'assura qu'il ne voulait agir qu'un ami. « Je ne regarde plus, lui dit-il, le docteur Martin Luther comme un hérétique. Je ne veux point cette fois l'excommunier, à moins qu'il ne me vienne d'autres ordres de Rome. J'ai envoyé sa réponse au pape par un express. » Puis, pour faire preuve de ses bonnes dispositions, il ajoute « Si le docteur Luther voulait seulement rétracter ce qui regarde les indulgences, l'affaire serait bientôt finie, car, pour ce qui concerne la foi dans les sacrements, c'est un article que chacun peut interpréter et entendre à sa manière. » Spalatin, qui rapporte ces paroles, ajoute cette remarque maligne mais juste « Il résulte clairement de là que Rome recherche l'argent plus que la sainte foi et que le salut des âmes. » Link revint chez Luther. Il y trouva Staupitz et leur rendit compte de sa visite. Lorsqu'il rapporta la concession inattendue du légat, il eut valu la peine, dit Staupitz, que le docteur Wenceslas eût avec lui un notaire et des témoins pour coucher par écrit cette parole, car si un tel dessein venait à être connu, cela porterait un grand préjudice aux Romains. Cependant, plus les paroles du prélat devenaient douces, et moins les honnêtes germains se confiaient en lui. Plusieurs des hommes de bien auxquels Luther avait été recommandé tinrent conseil. Le légat, dirent-ils, prépare quelque malheur par ce courrier dont il parle, et il est fort à craindre que vous ne soyez tous ensemble saisis et jetés en prison. Staupitz et Wenceslas se décidèrent donc à quitter la ville. Ils embrassèrent Luther, qui persistait à demeurer à Augsbourg, et partirent en toute hâte par deux routes différentes pour se rendre à Nuremberg, non sans ressentir bien des inquiétudes sur le sort du témoin courageux qu'ils laissaient derrière eux. Le dimanche se passa assez tranquillement, mais Luther attendait en vain un message du légat. Celui-ci ne lui faisait rien dire. Il résolut enfin de lui écrire. Staupitz et Link, avant de partir, l'avaient supplié de témoigner au cardinal toute la condescendance possible. Luther n'a pas encore essayé de Rome et de ses envoyés. Il en est à sa première épreuve. Si la condescendance ne réussit pas, il pourra se tenir pour averti. Maintenant, du moins, il en doit faire l'essai. Pour ce qui le concerne, il n'y a pas de jour qu'il ne se condamne lui-même, qu'il ne gémisse sur la facilité avec laquelle il se laisse entraîner à des expressions dont la force dépasse la mesure convenable. Pourquoi n'avouerait-il pas au cardinal ce que tous les jours il avoue à Dieu ? Luther avait d'ailleurs un cœur facile à émouvoir et qui ne soupçonnait pas le mal. Il prend donc la plume et, dans le sentiment d'une bienveillance respectueuse, il écrit au cardinal ce qui suit. Très digne Père en Dieu, je viens encore une fois, non de vive voix mais par écrit, supplier votre bonté paternelle de m'écouter avec faveur. Le révérend docteur Staupitz, mon très cher Père en Christ, m'a invité à m'humilier, à renoncer à mon propre sens et à soumettre mon opinion au jugement d'hommes pieux et impartiaux. Il a aussi loué votre bonté paternelle et m'a tout à fait convaincu des sentiments favorables dont vous êtes animé à mon égard. Cette nouvelle m'a rempli de joie. Maintenant donc, très digne Père, je confesse ainsi que je l'ai déjà fait auparavant, que je n'ai pas montré, comme on dit, assez de modestie, assez de douceur, ni assez de respect pour le nom du souverain pontife, et bien que l'on m'ait grandement provoqué, je comprends qu'il eût été mieux pour moi de traiter l'affaire avec plus d'humilité, de débonnaireté et de vénération, et de ne pas répondre au fou selon sa folie, de peur de lui devenir semblable. Proverbe chapitre 26, verset 4. Cela m'afflige fort, et j'en demande pardon. Je veux en donner connaissance au peuple du haut de la chair, comme au reste je l'ai déjà souvent fait. Je veux m'appliquer, avec la grâce de Dieu, à parler autrement. Il y a plus, je suis prêt à promettre, sans qu'on me le demande, de ne plus dire un seul mot sur le sujet des indulgences, si cette affaire est arrangée. Mais aussi que ceux qui m'ont porté à la commencer soient obligés de leur côté à se modérer désormais dans leurs discours ou à se taire. Pour ce qui regarde la vérité de ma doctrine, l'autorité de saint Thomas et des autres docteurs ne saurait me suffire. Il faut que j'entende, si j'en suis digne, la voix de l'épouse qui est l'Église, car il est certain qu'elle entend la voix de l'époux qui est Christ. Je prie donc, en toute humilité et soumission, votre amour paternel, de référer toute cette matière si incertaine jusqu'à cette heure à notre très saint Seigneur Léon X, afin que l'Église décide, prononce, ordonne et que l'on puisse se rétracter avec une bonne conscience ou croire avec sincérité. En lisant cette lettre, une réflexion se présente encore. On voit que Luther n'agissait point par suite d'un système formé à l'avance, mais uniquement en vertu de convictions imprimées successivement dans son esprit et dans son cœur. Bien loin qu'il y eût chez lui système arrêté, opposition calculée, il était parfois sans s'en douter en contradiction avec lui-même. D'anciennes convictions régnaient encore dans son esprit, bien que des convictions opposées y eussent déjà pris place. Et cependant, c'est dans ces marques de sincérité et de vérité qu'on est allé chercher des armes contre la réforme. C'est parce qu'elle a suivi cette loi obligatoire de progrès qui est imposée en toute chose à l'esprit humain qu'on a écrit l'histoire de ses variations. C'est dans les traits mêmes qui montrent sa sincérité et qui par conséquent la rendent honorable que l'un des génies chrétiens les plus éminents a trouvé ses objections les plus puissantes. Inconcevables aberrations de l'esprit de l'homme. Luther ne reçut pas de réponse à sa lettre. Cajetan et ses courtisans, après s'être si fort agités, étaient devenus tout à coup immobiles. Quelle pouvait en être la raison? Ne serait-ce pas le calme qui précède un orage? Quelques-uns sont de l'avis de Pallavicini. Le cardinal s'attendait, remarque-t-il, à ce que le moine orgueilleux, semblable à un soufflet enflé, perdrait peu à peu le vent dont il était rempli et deviendrait tout à fait humble. D'autres, pensant mieux connaître les voies de Rome, se croient assurés que le légat veut se saisir de Luther, mais que n'osant en venir de lui-même à de telles extrémités, à cause du sauf-conduit impérial, il attend de Rome la réponse à son message. D'autres encore ne peuvent pas admettre que le cardinal veuille attendre si longtemps. L'empereur Maximilien, disent-ils, et ceci pourrait bien être la vérité, ne se fera pas plus scrupule de livrer Luther au jugement de l'Église, malgré le sauf-conduit, que Sigismond ne s'en est fait de livrer Huss au concile de Constance. Le légat est peut-être maintenant en négociation avec l'empereur. L'autorisation de Maximilien peut arriver à toute heure. Autant il montrait auparavant d'opposition au pape, autant dans ce moment, et jusqu'à ce que la couronne impériale saigne la tête de son petit-fils, semble-t-il le flatter. Il n'y a pas un instant à perdre. Préparez, disent à Luther les hommes généreux qui l'entourent, préparez un appel au pape et quittez Augsbourg sans retard. Luther, dont la présence dans cette ville est depuis 4 jours tout à fait inutile et qui a suffisamment montré en restant après le départ des conseillers saxons envoyés par l'électeur pour veiller à sa sûreté qu'il ne craint rien et qu'il est prêt à répondre à tout, se rend enfin au vœu de ses amis. Mais auparavant, il veut instruire Devio de son dessein. Il lui écrit le mardi, veille de son départ. Cette seconde lettre est plus ferme que la première. Il semble que Luther, voyant que toutes ses avances sont vaines, commence à relever la tête dans le sentiment de son droit et de l'injustice de ses ennemis. « Très digne père en Dieu, écrit-il à Devio, votre bonté paternelle a vu, oui vu, dis-je, et a suffisamment reconnu mon obéissance. » J'ai entrepris un si lointain voyage, au milieu de grands dangers, avec une grande faiblesse de corps et malgré mon extrême pauvreté, sur l'ordre de notre très saint Seigneur Léon X, j'ai comparu en personne devant votre éminence. Enfin, je me suis jeté aux pieds de sa sainteté, et j'attends maintenant ce qui lui semblera bon, prêt à reconnaître son jugement, soit qu'il me condamne, soit qu'il me justifie. J'ai donc le sentiment de n'avoir rien omis de ce qui est bienséant à un fils obéissant de l'Église. Je pense, en conséquence, ne pas devoir prolonger ici inutilement mon séjour. Cela me serait d'ailleurs impossible. Je manque de ressources et votre bonté paternelle m'a commandé d'une voix élevée de ne plus paraître devant ses yeux si je ne voulais pas me rétracter. Ainsi donc je pars au nom du Seigneur, voulant chercher s'il me sera possible de me rendre dans quelque lieu où je puisse vivre en paix. Divers personnages plus importants que moi m'ont invité à n'appeler de votre bonté paternelle et même de notre très saint Seigneur Léon X, mal informé à lui-même mieux informé. Bien que je sache qu'un tel appel sera beaucoup plus agréable à notre sérénissime électeur qu'une rétractation, néanmoins, si je n'avais dû consulter que moi-même, je ne l'aurais pas fait. Je n'ai commis aucune faute, je ne dois donc rien craindre. Luther, ayant écrit cette lettre, qui ne fut remise au légat qu'après son départ, se disposa à quitter Augsbourg. Dieu lui avait gardé jusqu'à cette heure, et son cœur en louait le Seigneur, mais il ne devait pas tenter Dieu. Il embrassa ses amis Pöttinger, la Gemmantel, les Adelmann, Auerbach et le prieur des Carmélites qui lui avaient donné une hospitalité si chrétienne. Le mercredi, avant le jour, il était levé et prêt à partir. Ses amis lui avaient recommandé de prendre beaucoup de précautions, de peur que, remarquant son dessein, on y mit obstacle. Il suivit autant qu'il le put ses conseils. Un bidet que Staupitz lui avait laissé fut amené devant la porte du couvent. Encore une fois, il dit adieu à ses frères. Puis il monte et part, sans avoir de bride pour son cheval, sans bottes, sans éperons, sans armes. Le magistrat de la ville lui avait donné pour l'accompagner un huissier à cheval qui connaissait parfaitement les chemins. Ce serviteur le conduit au milieu des ténèbres par les rues silencieuses d'Augsbourg. Il se dirige vers une petite porte pratiquée dans le mur de la ville. L'un des conseillers, la Gemmantel, avait donné ordre qu'elle lui fût ouverte. Il est encore en la puissance du légat. La main de Rome peut encore s'étendre sur lui. Sans doute, si les Italiens savaient que leur proie leur échappe, ils pousseraient un cri de fureur. Qui sait si l'adversaire intrépide de Rome ne sera pas encore saisi et plongé dans un cachot. Enfin, Luther et son guide arrivent à la petite porte. Ils la passent. Ils sont hors d'Augsbourg. Et bientôt, ils lancent leurs chevaux au galop et s'éloignent en toute hâte. Luther, en partant, avait laissé son appel au pape entre les mains du prieur de Pomceau. Ses amis n'avaient pas été d'avis de le remettre au légat. Le prieur était chargé de le faire afficher, deux ou trois jours après le départ du docteur, à la porte de la cathédrale, en présence d'un notaire et de témoins. C'est ce qui eut lieu. Luther, dans cet écrit, déclare qu'il en appelle du Très-Saint-Père le pape, mal informé, au Très-Saint-Seigneur et Père en Christ, Léon X du nom, par la grâce de Dieu, mieux informé. Cet appel avait été adressé dans le style et les formes voulues par le ministère du notaire impérial Gall de Herbrachtinger, en présence des deux moines Augustin, Barthélemy Usmer et Wenzel Steinbies. Il était daté du 16 octobre. Quand le cardinal apprit le départ de Luther, il s'en étonna, et même, à ce qu'il assure dans une lettre à l'électeur, il s'en effraya et il s'en épouvanta. En effet, il y avait de quoi l'irriter. Ce départ, qui mettait fin d'une manière si brusque à toutes les négociations, déjouait les espérances dont son orgueil s'était si longtemps flatté. Il avait ambitionné l'honneur de guérir les plaies de l'Église, de rétablir en Allemagne l'influence chancelante du pape, et non seulement l'hérétique lui échappait, sans qu'il l'eût puni, mais même sans qu'il fût parvenu à l'humilier. La conférence n'avait servi qu'à mettre dans un plus grand jour, d'un côté la simplicité, la droiture, la fermeté de Luther, et de l'autre la conduite impérieuse et déraisonnable du pape et de son ambassadeur. Puisque Rome n'y avait rien gagné, elle devait y perdre. Son autorité n'ayant pas été raffermie, devait avoir reçu un nouvel échec. Que va-t-on dire au Vatican? Quels messages vont arriver de Rome? On oubliera les difficultés de sa situation? On imputera son inhabileté la mauvaise issue de cette affaire? Serra Longa et les Italiens sont furieux de se voir, eux gens si habiles, déjoués par un moine allemand. De Vio a peine à cacher son irritation. Un tel affront crie vengeance, et nous le verrons bientôt exhaler sa colère dans sa lettre à l'électeur.